tous, chers auditeurs. Il est 10h01 à la pendule de Radio Canu et comme c'est la rentrée, mais comme tous les dimanches de 10h à midi, c'est l'émission Musique, etc. qui débute. Musique, etc. Une émission musicale de Radio Canu. Donc dans cette première partie de 10h à 11h, j'accueille le groupe Ash Winter. De ma gauche à ma droite, il y a Greg le bassiste.
Salut.
Il y a Lana la guitariste.
Bonsoir.
Il y a Nico le guitariste.
Coucou.
Et donc Marie la chanteuse donc de Ash Winter.
Bonjour.
Bienvenue Ash Winter. Et donc tout au long de l'émission, on va écouter un album qui s'appelle Papa Legba, qui est sorti le 20 septembre 2024, il me semble.
Oui, c'est ça.
On va écouter un peu rapidement un premier morceau pour voir à quoi ressemble votre musique, mais avant peut-être faire un historique, une présentation de Ash Winter. Ça fait combien de temps que le groupe existe, comment vous êtes rencontrés tous les quatre?
Si on commence au tout début, on s'est né dans un garage en 2018 avec sous impulsion de quelqu'un qui est plus dans le groupe, qui était au chant à la base. Et puis, Lana est présente depuis le début, Greg et moi aussi. Et puis, Marie est venue juste avant qu'on fasse cet album.
Il y avait un album précédent déjà, c'est le deuxième album, il me semble.
Ouais, on a fait un petit EP, ouais. Qui à la base devait être une simple démo, et puis finalement, c'est pris au jeu, c'est devenu carrément un EP. Et puis, ouais, voilà.
Pour votre style, on parlera de quoi en fait? De toute façon, générique, on peut dire que c'est du métal, ça vous convient, mais après, si on s'attarde sur les niches du métal, vous placeriez dans quel bac?
Au niveau des niches, on dirait plutôt tribal, plutôt
ouais.
Death.
Ouais, death metal à la base.
Touche de groove, mais c'est ça, en fait, on est basé sur du death et en fait, on va chercher des choses qu'on va chercher dans les musiques traditionnelles tribales et puis on rajoute des touches de groove qu'on retrouvera dans certaines niches.
Et puis le côté tribal, on le retrouve aussi dans les textes, dans certains thèmes de certains textes aussi, notamment Papa Legba qui, on expliquera peut-être plus avant dans l'émission, ou lui en parler maintenant, Papa Legba, qu'est-ce que c'est?
Papa Legba, c'est un loa qu'on va retrouver beaucoup dans tout ce qui va être religion vaudou. Après, pour le côté tribal, on va plutôt être sur K.A. et Roy Pituna, qui sont du coup écrites en anglais et en Ningatu, qui est un dialecte qu'on va retrouver dans les tribus Tupi.
Voilà, vers l'Amazonie en gros, ouais.
Donc, et pour maîtriser cette langue, vous avez fait comment en fait?
Passer des journées entières sur internet à essayer de se renseigner sur une langue qui est parlée par 200 personnes, c'est pas évident.
Ouais. Et comment on arrive à la faire sonner, une langue
La phonétique.
Eh ben ouais, on regarde un peu la phonétique, on essaie de voir comment chaque chose se dise. Donc évidemment, on se doute bien qu'on n'est pas pixel sur... je sais pas si un locuteur comprendrait tout, mais bon.
Puis, on essaye.
On a la chance que le Ningatu est une langue déviée du portugais. Donc en fait, on a déjà quand même une base, il y a un dialecte qui existe et qui en fait fait un agrégat de tous les dialectes qu'on retrouve en Amazonie. On a récupéré le Tupi, qui est la plus grosse langue de toutes ces tribus.
Voilà.
Et qu'est-ce que vous pensez d'un album de Sepultura, Roots? C'est un peu la même famille ou ça?
Ouais, franchement, c'est quelque chose, ça fait partie des inspirations, en effet, ouais.
Donc là, je vous propose d'écouter l'introduction que vient d'évoquer Greg et le premier morceau. Je vous laisse prononcer peut-être le titre de...
L'intro, c'est K.A.
K.A., voilà. Et après, c'est Roy...
Roy Pituna,
voilà, je vais y arriver. Et donc, c'est Ash Winter sur Radio Canu.
Thank you. Kawasu. Yasima no Yasita ta pepe.
Yasima no Yasita ta pepe.
Ash Winter sur Radio Canu avec donc l'introduction de l'album K.A. et donc Roy Fituna.
Roy Fituna.
Vous l'avez évoqué de cette introduction, on a un peu parlé, mais cette introduction et ce premier morceau qui ouvre votre disque Papa Legba, peut-être sur le sens du texte et puis comment vous avez travaillé. C'est un morceau le morceau est assez complexe. Comment vous l'avez mis en place, comment vous avez travaillé pour accoucher d'un tel titre?
Bah, au tout début, l'intention, ça vient plutôt de moi. Et là, j'avais une volonté un peu de, bah, justement, on en parlait tout à l'heure sur Roots de Sepultura, un peu de se rapprocher de Ratamahata sur voilà, des sonorités bien tribales comme ça. Et il y a eu une grosse inspiration à Alien Weaponry aussi, groupe néo-zélandais qui justement joue beaucoup là-dessus, sur le côté bah, tribal justement.
Maori
du coup, en effet. Et puis après, bah, derrière, voilà, toutes les idées de Riz sont venues petit à petit, la volonté de faire une progression et de finir un peu dans un gros climax comme ça.
Et le lien, pour ceux qui connaissent mal cette musique, parce que le lien entre quand on écoute, ça peut, quand on écoute votre musique, ça paraît un peu évident. Et puis si on écoute aussi le roots de Sepultura également, mais le lien entre la musique tribale et le métal, pour faire sur un terme générique, comment on arrive à faire le lien finalement et à faire des disques tels que le vôtre en fait.
Je pense que le métal, c'est une musique qu'on peut mélanger avec toutes sortes d'inspirations. Et les musiques traditionnelles en font partie.
En effet. Et puis, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un gros potentiel dans le fait de réunir un peu ces deux aspects qui n'étaient pas hyper présents. C'est vrai que Sepultura, enfin beaucoup Max Cavalera aussi avec Soulfly, l'a pas mal fait, mais c'est pas quelque chose qui a eu une descendance si énorme. Et puis c'est vrai qu'il y a Alien Weaponry qui a fait ça un peu plus récemment, et j'ai toujours trouvé que voilà, il y avait vraiment un truc à creuser là-dedans, potentiel un peu pas assez exploité quoi.
Ouais, il y a quelque chose de trop intéressant au niveau des rythmes, au niveau de l'intention, qui colle hyper bien avec le death metal en fait.
Et donc la chanson parle de quoi, ça?
Et ben là, ça parle. En fait, on se met un peu du point de vue justement d'une population en Amazonie qui voit un peu tous les problèmes occidentaux qui sont en train de les envahir petit à petit. Donc, ça parle entre autres un peu de déforestation. Et puis, on est vraiment dans un cadre un peu dystopique, c'est-à-dire que là, il y a l'idée qu'il y a complètement une guerre. Un peu nucléaire, parce que c'est aussi ça le thème un peu général du groupe. Et puis qu'ils voient arriver ça chez eux, qu'ils voient le ciel s'embraser, etc.
C'est Avatar, quoi.
Sauf qu'ils sont pas bleus, oui.
Et on peut dire, votre album, on peut dire que c'est un concept album, cet album ?
Pas particulièrement. Disons que je dirais que c'est plus le groupe, globalement, où il y a cette idée de concept, oui, de parler un peu de la déchéance de la civilisation, et puis donc via plusieurs causes, ouais. Beaucoup des problèmes, surtout en pointant des problèmes occidentaux, quoi.
Ouais, de se placer à l'extérieur avec un regard extérieur et faire jouer un peu les candides finalement.
Oui, c'est un petit peu ça dans l'idée du morceau, ouais.
Et pour le parcours musical de chacun, vous êtes passé par quelles étapes pour arriver jusqu'à Ash Winter en fait. Vous avez toutes et tous commencé par ce style de musique, ou vous êtes passé par d'autres expériences, d'autres groupes, d'autres projets qui se lancent, Lana?
Ouais. Moi j'ai commencé à 9 ans la guitare. J'ai eu un prof pendant un an et puis après je me suis démerdée toute seule, donc mais toujours, j'ai toujours baigné dans le métal avec mon papa, et voilà, j'ai jamais changé de style, j'ai toujours joué ça depuis que je suis gamine, donc ouais.
Ouais, et puis t'es dans ça a toujours été ton seul groupe,
puis c'est mon seul groupe, ouais.
D'accord.
Donc j'ai eu un groupe assez tardivement par rapport à quand j'ai commencé quand même, mais
ouais. C'est surtout que t'as commencé la guitare super tôt.
Ouais, mais j'avais pas l'optique d'avoir un groupe, tu vois.
D'accord.
Qui poursuit Nico par exemple, le guitariste?
Eh ben ouais, moi j'ai commencé plus tard, la gratte, ouais, à 17 ans, vraiment autodidacte, hein, parce que j'avais des potes autour de moi au lycée qui me motivait un petit peu à en faire. Et puis ouais, je me suis vraiment plongé dedans, c'est devenu vraiment une obsession, quoi. Et oui, sinon, bah, avant Ashwinter, j'ai aussi un groupe de prog qui s'appelle Satwan, qui a sorti un album aussi deux mois après nous. Hein. Et puis voilà, puis après là, je me suis mis au chant aussi un peu plus récemment. Donc du coup, j'ai aussi un groupe de trash où je suis au chant qui s'appelle Kamikoizi. Et ouais, voilà, donc au final, la musique pour moi, c'est vraiment le... C'est vraiment obsessionnel, quoi. C'est vraiment un truc très important. Et puis donc, ouais, Ashwinter, voilà, moi j'étais depuis le début, ouais.
Et donc Marie, la chanteuse
Moi, je commençais la musique par la guitare. À 14 ans, j'ai eu un petit groupe au lycée où j'étais guitariste. Puis en fait, j'ai découvert que j'arrivais à faire du chant guttural. Je suis arrivée comme ça d'un coup toute seule. Puis je me suis dit que c'était une piste à creuser parce qu'il y avait moins de personnes qui faisaient ça, encore moins des femmes à l'époque. Et puis petit à petit, j'ai eu plusieurs groupes, j'ai créé une chaîne YouTube et de fil en aiguille, j'ai rencontré Ashwinter et puis j'étais là au moment où ils avaient besoin et ça a matché.
Oui, on peut approfondir pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette musique, le travail que tu fais sur ta voix. Sur la voix, ouais. Comment ça se passe, comment tu arrives à ce résultat, quoi.
Oui, alors en fait c'est un effet qu'on met sur la voix, donc ça fait partie de la grande famille des chants saturés. Et moi j'utilise une méthode, en fait je fais vibrer mes fausses cordes vocales et c'est ça qui va permettre de rabaisser la fréquence de la voix et ça va donner un son très très grave, presque un peu monstre, inhumain. Et puis au début ça demande beaucoup de travail pour arriver à le maîtriser, pour arriver à le faire durer, pour arriver à faire des vers entiers, des couplets entiers, un morceau entier, et puis avec le temps ça améliore et voilà, on tient un set en live.
Oui, c'est très technique et oui, on pourrait penser que tu te fais mal, mais tu te fais pas mal, hein, enfin quand tu chantes de cette manière là parce qu'on peut penser que tu te casses la voix, mais en fait c'est pas...
Non, pas du tout, ouais, c'est maîtrisé, c'est une technique, voilà, faut faire attention, faut écouter son corps et puis pas faire n'importe quoi, pas juste hurler comme on pourrait le faire devant un match de foot.
Et il y avait une chanteuse d'un autre groupe de métal qui m'avait dit que ce travail-là de la voix est un peu le même que pour les chanteurs de musique classique. Je saurais pas l'expliquer précisément, mais
alors c'est
dans la technique en tout cas.
C'est pas la première fois que j'entends ça, mais je ne suis pas chanteuse de musique classique et j'en ai pas vraiment dans mon entourage proche, donc j'aurais pas la prétention de dire que c'est un travail qui est similaire. Mais oui, il y a un vrai travail de la voix avec du travail, des échauffements, etc. C'est pas du n'importe quoi comme beaucoup pourraient penser.
Oui.
Faut je pense faire encore plus attention qu'avec du chant classique, enfin du chant normal, je veux dire. Enfin encore, enfin, je pense qu'il faut faire attention dans tous les cas, mais c'est vrai qu'on peut plus facilement se blesser avec du chant extrême, je pense.
Tu veux rajouter quelque chose sur ton parcours, Greg, le bassiste, donc t'es passé par quelles étapes jusqu'à Ashwinter en fait?
Moi j'ai commencé la musique quelques mois avant de rejoindre le groupe. Donc du coup j'ai appris notamment grâce à Nico et Lana qui avaient déjà un excellent niveau et j'ai dû me mettre un peu à la barre. Et Ashwinter était mon seul groupe. Et d'ailleurs j'ai rejoint un projet que très très récemment là. Pour essayer de faire un peu autre chose et développer quelques d'autres techniques en basse.
D'accord, je propose qu'on voulait ajouter quelque chose ou on poursuit en écoutant la chanson titre.
On peut.
On écoute donc Ashwinter et donc la chanson titre de l'album, donc c'est Papa Legba sur Radio Canu. Voilà, Ash Winter avec le morceau Papa Like Back, donc qui donne son nom au disque. On peut évoquer ce titre sur le plan musical et sur le texte. On en a un peu parlé de Papa Like Back en début d'émission, mais peut-être approfondir un peu. Mais comment vous avez travaillé pour le mettre en place? Je trouve que c'est des morceaux très, très complexes, et ce qu'on appelle des morceaux à tiroir.
Papa Like Back, c'est un morceau qui a commencé par un concept très simple. La période où il a été commencé à vraiment être écrit, c'était la période Covid, donc déjà où on était tous enfermés, donc on avait tous des lubies et des passe-temps un peu quelconques par rapport à d'habitude. Personnellement, c'était regarder des documentaires douteux sur YouTube, sur plein de trucs, sur les cultures, sur tout ça. En parallèle, sur WoW, il y avait une extension qui était en cours, qui s'appelait Battles for Azeroth, et il y avait un personnage emblématique qui était Bwant Samedi, qui est très clairement un parallèle au Baron Samedi, qui est, dans certaines cultures vaudou, le Papa Like Back, donc le Loi des Morts. Donc, tout cumulé faisait que, bon, bah, ce documentaire sur le vaudou, avec ce rythme, était vraiment cool. On l'a écrit, puis après on a mis un riff, puis un autre, puis Nico il a rajouté, puis Lana elle a rajouté, puis en fait on a tous rajouté dessus, et le morceau est sorti comme ça.
Et juste Papa Like Back, qu'est-ce qu'il fait en fait?
Ça dépend. Le vaudou, c'est pas comme ça va pas être comme la Bible ou le Coran où ça va être des choses très écrites et actées. Là, on est surtout sur des histoires de passages qui sont contées de génération en génération. Donc, c'est pas par exemple le vaudou haïtien, le vaudou béninois, ça va pas être exactement la même chose que le vaudou qu'on va retrouver à La Réunion. Donc, il y a pas de choses vraiment actées. Donc, moi, comment je l'ai compris, comme je l'ai lu. Le Baron Samedi, c'est le loi des morts, donc on va partir du principe que c'est un homme ou une entité qui va apparaître pour faire un échange, par exemple. Quelqu'un l'appelle, quelqu'un l'invoque, le Baron Samedi vient pas pour rien, donc il vient pour échanger quelque chose.
Voilà, il y a une idée un peu de passeur entre le monde des morts et des vivants, ouais. Et il est souvent représenté justement comme étant un croisement, tu vois, un croisement de route, et puis voilà, c'est quelqu'un que tu peux trouver à un croisement. Parce que cette idée, ouais, de croisement entre le monde des morts et des vivants, quoi.
Pour l'enregistrement de cet album, comment vous avez où vous avez travaillé et comment?
Et bah pour les guitares, basses, on a fait chez nous. Ouais. Non, basses, t'es allé chez Kevin, toi.
Ouais.
Mais guitares, on a fait chez nous avec Nico. Pour les voix,
bah on est allé chez notre ingé son, ouais. Qui Bravo Records.
Oui.
À Histoire, au sud de Clermont-Ferrand, on a enregistré chez lui, bah, du coup, sauf la batterie et
voilà,
et
ça, les guitares. Ça a été fait maison. Ouais, ouais. Ouais.
Et ensuite, il s'est chargé également du mix et du master.
Voilà. Ed Wild aussi, non? En partie.
L'interlude?
Ah non, c'est tout Nico qui a fait
ouais,
chez moi.
Ça, j'ai tout fait chez moi. Ouais.
Avec des trucs de riz à secouer.
Ouais, avec ce que j'avais dans ma cuisine. Littéralement.
Et pour mettre en boîte un album tel que celui-ci, ça prend combien de temps?
Beaucoup plus que ce qu'on pense au début, ouais. Ça c'est sûr. C'est-à-dire que à partir du moment où on a commencé à enregistrer et la sortie, il y a eu presque un an et demi.
Mais ouais. C'est pas tant l'enregistrement qui prend du temps, c'est surtout le mix. D'avoir quelque chose qui sonne comme on veut en fait. Et quand t'es à distance, c'est super compliqué. Donc on a été obligé de retourner à Histoire pour vraiment avoir des choses qu'on voulait, quoi, parce que c'est vraiment, c'est surtout ça qui prend du temps en soi.
Ouais, et puis après toute la phase de compo évidemment, oui, mais ouais. Ça, si tu veux, c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure du temps, quoi. Il y a pas de plage vraiment dédiée à ça, c'est tant qu'on a des idées on compose et puis voilà.
Et quand vous avez commencé à enregistrer, les morceaux étaient écrits, enfin vous aviez l'album en tête en fait.
Ah oui, ouais ça.
Bah, sauf l'interlude contre, que t'as décidé de rajouter, du coup.
Oui, voilà, ouais. Après, il y a eu quelques ajouts. Il y a des choses quand même qui sont un petit peu, genre au niveau des lignes de chant par exemple, il y a des choses qui sont décidées un peu au moment de l'enregistrement. On s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément pertinentes.
Et c'est comme dans le rock classique où commençait batterie, basse.
Alors là, c'était très spécial l'enregistrement, parce que c'est-à-dire que notre batteur n'avait pas encore de setup pour s'enregistrer, et lui voulait s'enregistrer lui-même pour bien prendre le temps, pour faire les choses. Et au final, la batterie a été faite en dernier. C'est ce qui est un peu étonnant.
Et ça a été compliqué pour l'ingé son, je crois.
Ouais.
Ouais. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu particulier, quoi, quand t'enregistres. Tu t'enregistres pas sur la batterie qui est censée être sur l'album, t'enregistres sur une batterie théorique en quelque sorte.
Force à Kiev.
Donc derrière lui, il a dû être vraiment très très carré sur la batterie pour coller avec nous. Donc, Mais voilà, c'est vraiment parce qu'on n'avait pas trop le choix. Mais en théorie, oui. Normalement, la batterie est censée être faite en premier. Ouais. Ouais. On n'a pas tout fait dans l'ordre, ouais.
Et donc la batterie en dernier, puis la voix en dernier aussi également.
Oui, c'était juste avant la voix, ouais.
Les voix, parce qu'il n'y a pas que moi, il y a aussi beaucoup de cœurs de Lana et Nico.
En effet.
Et c'est du plaisir d'enregistrer un album comme ça, ou c'est un passage obligé pour fixer une œuvre à un moment, à l'instant T, quoi, puis avoir une carte de... C'est plus qu'une carte de visite, avoir un objet et puis un moyen de démarcher pour...
Dans tous les cas, d'avoir une idée, de la concrétiser, de l'avoir de manière tangible dans les mains, c'est super sympa, c'est super cool. Après, dans l'ego d'un musicien, le passage en studio, ça fait très mal.
Moi, je sais que j'adore enregistrer.
Moi aussi, j'ai adoré. ça dépend des musiciens.
C'est pas facile pour tout le monde.
Ça a été pas facile. Il y a eu beaucoup de moments de complexité.
Ouais,
mais sinon, il y a surtout ça, la désillusion. T'arrives le matin frais comme un gardon, tu repars, t'es dépité, t'as plus envie de faire de la musique, tu détestes tout le monde. ça a été mon expérience studio. Mais par contre, malgré tout, c'est un truc que je recommencerai évidemment.
En
fait, c'est très formateur et ça donne envie de pousser le truc encore au maximum et de se dire, ok, en fait, mes lacunes sont là, faut que je bosse ça.
Et puis c'est vrai, comme tu disais, c'est vraiment ce qui est génial. Là, tu vois tout le temps passer à galérer, tu dis que ça valait vraiment le coup. Ouais, c'est quand à la fin le truc il sort et tu peux enfin présenter ça aux gens et qu'en plus les retours sont plutôt bons. Et là on est vraiment content.
Et c'est un aboutissement. Tu dis, je peux mourir, j'ai fait ça. Même si avant personne qui l'ont écouté, tu vois.
Non, puis c'est vraiment un très bel album.
Ouais. Merci.
Merci.
On poursuit. Je vous propose qu'on écoute Running Away, c'est ça?
Ouais. Courir très loin.
Et donc c'est Ash Winter sur Radio Canet. Ash Winter avec le titre Running Away, donc toujours extrait donc de leur dernier album Papa Legba. On évoque ce titre, c'est ce qu'on disait un petit peu en antenne, ce que disait Greg, on vient dans des zones plus connues de ce que vous avez fait auparavant avec un morceau comme celui-ci, et le côté tribal c'est venu qui commence le... Je te laisse en parler peut-être.
En gros, l'album a été fait à l'envers, c'est-à-dire que le côté tribal qu'on a donc sur les deux premiers morceaux, c'est ce qu'on fait maintenant. Donc c'est vraiment le neuf d'Ash Winter, là on est en train d'aller sur le côté transition, quand on est parti du premier EP à sur l'album.
Ouais.
Tout en gardant des morceaux très contextualisés et assez complexes pour certains, mais cette vibe vraiment tribale, on l'a ajoutée sur ces trois morceaux-là. Voilà.
Et là, on le sent encore un petit peu, il y a un peu des percus tribales là, sur le morceau. Et en fait, celui-ci, c'est un assez vieux morceau du groupe qu'on a totalement remanié, justement, pour un peu plus coller à la
nouvelle esthétique.
Ouais. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup été transformé. Ouais,
ouais, carrément. Putain.
Et donc, ce morceau, Running Away, ça parle de quoi?
Eh ben, ça parle... justement, on est dans ce contexte un peu de guerre nucléaire et on est un peu dans la tête d'une personne qui a été sélectionnée pour être parmi les survivants et qui du coup se retrouve dans un bunker avec tous les autres parce que elle a eu le droit de vivre et du coup, en gros, il y a un peu tout ce qui se passe dans sa tête, tout le chaos quoi qu'il y a dans sa tête, tous les questionnements quoi.
Pourquoi moi et pas les autres?
Ouais, voilà, et puis de se dire est-ce que je le mérite? Oui, peut-être que je le mérite, peut-être pas, voilà.
Et sur scène, ce qu'on entend, les morceaux bougent quand vous êtes sur scène par rapport à ce qui a été enregistré, ou c'est assez fidèle ça?
Globalement, c'est ouais, tout est très proche. Ouais. On fait en sorte même pendant la composition de d'anticiper un peu comment ça va être joué en live, parce qu'il y a des moments où il peut y avoir trois guitares. Et du coup, ouais, on fait toujours en sorte de faire en sorte que ça sonne le mieux possible en live, que ce soit le plus proche en effet de ce qu'il y a en studio. Ouais.
On galère quand même un petit peu à faire bien sonner ce morceau, faut vraiment qu'on s'isole en résidence pour ça, parce que c'est vrai que il y a des choses, des fois ça sonne hyper bien en studio, et je sais pas pourquoi, des problèmes de fréquences et tout en live, de jeu,
ouais,
font qu'il y a des fréquences qui se bouffent les unes les autres et qu'on comprend moins.
C'est pas tous les morceaux ouais, qui sont facilement adaptables en live. Celui-là fait partie des
plus difficiles, ouais.
Les plus difficiles, ouais.
Et donc tu disais que vous alliez parfois, vous alliez en résidence pour, oui, parce qu'en fait vous êtes accompagné aussi pour avancer dans votre travail, non?
Non, pas spécialement. Après, la résidence, ça nous permet de travailler tous ensemble notre jeu de scène et notre son. Après, dans nos proches, on a quelqu'un qui aime bien travailler notre son avec nous, Ken. Donc l'idée, voilà, c'est un peu de travailler avec lui. Après, bon, on n'a pas forcément de personne qui nous dit vous faites ci, vous faites ça. Enfin, c'est entre nous, quoi.
On est vraiment
Ken faisant
plus,
partie de notre équipe.
On est plus indépendants et c'est les connaissances, les copains qui, au moment venu et au besoin, viennent nous filer un coup de main. Mais écoutez, on n'a pas une structure qui est derrière nous. On n'est pas suivi par une SMAC ou par une CCM ou quoi. Enfin.
Et donc, on disait que les morceaux bougeaient pas trop sur scène. Il faut noter quoi, que le métal, c'est quand même... je sais pas, il y a pas de possibilité d'improvisation, de toute façon, parce que c'est une musique qui est très écrite, très exigeante sur le plan technique, que ce soit pour les instruments, pour la voix.
Ouais, c'est exactement ça, ouais.
Et puis, comme on joue au clic, on n'a pas de part d'improvisation. Ouais. Faut qu'on suive le projet.
En fait, on pourrait éventuellement le prévoir, mais ouais.
Oui.
En fait, si tu veux, ce serait de l'improvisation prévue, quoi.
Ouais,
ouais, du coup, c'est pas de l'impro.
Il n'y a pas d'impro musicale, par contre, d'un point de vue scénique. On se fait quand même plaisir, notamment Greg. Il saute partout, il se jette dans le public. Des fois, il arrête totalement de jouer. Il a tout le temps des problèmes.
Ouais, pas chorégraphié. Ouais.
Du coup, il y a quand même un côté assez. Oui, certes, musicalement, on garde la musique et on garde le rythme, on garde le clic et tout, mais je trouve qu'il y a quand même un esprit un peu punk dans nos lives. Hein.
Ouais.
Ah bah, c'est pas chorégraphié, ça.
Ah, ça, c'est pas du tout chorégraphié.
Le but du jeu, c'est on va voir un concert, on l'écoute pas.
Ouais, c'est ça.
Après, si le son est nul, c'est nul, mais souvent, moi, les concerts que j'ai vus, ceux que je m'en souviens le mieux, c'est ceux où il y avait une scène qui était trop bien. Et c'est ça, moi, c'est ce point d'inspiration là que je veux. Quand j'étais gamin, quand j'allais voir des concerts et que la scénique était folle, bah, j'étais en mode putain, Jacques Aponc, c'est trop bien. Le mec, il court sur les gens, il saute dedans, il se met tout nu, c'est trop bien, faire pareil.
Mais faut quand même privilégier de bien jouer les morceaux avant de faire le.
Voilà, oui.
Du coup, je disais, faut courir tout droit.
Bah, il y a Lana et Nico qui assurent pendant que Greg fait n'importe quoi, quoi. Ça fait un bon équilibre.
Non mais ça marche, après les gens ils sont contents, ils disent qu'on bouge bien, que c'est dynamique, voilà, ça marche bien hein, mais...
Oui mais après ce que vous notiez c'est qu'il faut quand même que la musique...
Il faut que la musique roule, si la musique roule pas dans tous les cas forcément après...
Ça c'est quand même le minimum.
Oui, pas qu'on passe pour des cons quoi.
pour se permettre ce genre de choses, faut assurer derrière quoi.
Ouais.
Oui c'est sûr. Bah de toute façon heureusement qu'il y a les copains qui mettent vraiment les pendules à l'heure hein, sur ça.
Puis de toute façon si t'assures pas, il y a personne pour te rattraper dans le public quand tu sautes.
Il joue trop mal ce connard, on va le laisser tomber comme Beyoncé.
Oui, tu fais du slam et des fois on t'en rattrape.
Ah, ben c'est tout le temps en fait. Ouais, c'est pas, on va dire que si je le fais pas, c'est que je ne peux pas.
C'est que c'est physiquement impossible.
Mais sinon, en fait, We Won't Fall, donc un morceau qu'on écoutera après, We Won't Fall, comme on disait, nous on joue tout au clic, on a prévu le fait de faire deux fois le breakdown. Moi, sur le deuxième tour de breakdown, je ne compte pas sur moi pour jouer en fait. Deuxième temps de breakdown, c'est à tout moment ma basse elle finit dans les mains d'un type, j'ai plus de pantalon, je suis dans les jambes.
Donc oui, ça reste exigeant mais festif et punk, comme disait Marie avec un esprit punk.
Ouais, quand même.
On est là pour offrir un spectacle aux gens et leur faire passer un excellent moment.
Faut divertir. Ouais.
Mais j'insiste quand même. Beaucoup de travail en amont pour en arriver là. Quoi.
Pour être à l'aise et se permettre de faire ça, oui, c'est sûr que.
De toute façon, ça se voit sur certains morceaux, si on les maîtrise moins, on bouge moins.
Il y a des passages, des morceaux où on est tous un peu, chacun, on a un peu nos passages où on devient très statique parce qu'on a besoin de se dire, ok, c'est le moment où il ne faut pas chier dans la colle.
Je propose, le temps passe, je propose de poursuivre en écoutant Illusion of Knowledge. L'illusion de la connaissance, voilà. C'est ça. On écoute et on évoquera ensuite le morceau. Et donc, je rappelle, c'est Ash Winter sur Radio Canu dans Musique, etc. Voilà, donc Ash Winter avec Illusion of Knowledge, l'illusion de la connaissance. Oui, vous voulez en parler de cette chanson-ci, de ce titre-ci?
Ouais, bah, alors ça, c'est un morceau au niveau du thème. Ça parle d'un problème qui est un peu latent dans notre société, surtout récemment. C'est vraiment lié à l'esprit critique, au manque d'esprit critique, en fait. Ça parle beaucoup, justement, de la crise sanitaire, de gens qui se présentaient dans les médias, qui pouvaient dire un petit peu n'importe quoi, ou se faire passer pour des héros, etc.
On va pas faire de name-dropping, non.
Non, on va faire name-dropping, tout le monde a compris.
La blouse blanche, les cheveux blancs.
Et donc voilà, ouais, ça parle surtout de ça, et qui est justement un potentiel... fléau qui fait partie justement des potentielles causes d'une sorte un peu de déchéance, quoi, parce qu'il y a une opinion publique qui peut pas être consciente de plein de biais, pas assez être prudente, trop être fervente sur certaines choses, ou des fois prendre des croyances pour des réalités.
Ouais, s'éloigner de la science, enfin, c'est ça.
Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ou des fois d'avoir des avis sur des choses qui sont censées être totalement factuelles, alors que les faits ne sont pas censés être des avis, quoi.
Donc, depuis 10 heures, vous écoutez musique, etc. C'est l'émission de rentrée, la première émission du mois de janvier. Je suis en compagnie du groupe Ash Winter. Donc, j'étais en compagnie de Greg, le bassiste, de Lana, la guitariste, de Nico, le guitariste, et de Marie, la chanteuse. On a pu écouter tout au long de l'émission leur album Papa Legba. On va se quitter sur le dernier morceau qui clôt le disque, qui est un peu un pas de côté par rapport au reste de l'album. Vous allez entendre ça dans quelques instants. Mais avant, pour ceux qui ont écouté cette émission, Ash Winter, qui aime votre musique, qui voudrait vous suivre, se procurer le disque, vous voir en concert, vous communiquer avec vous, faire votre communication de façon bien synthétique.
Oui, on est sur tous les réseaux sociaux classiques, Instagram, etc. Juste Ash Winter, Ash ED à la fin, Ashed Winter. On a un site internet, etc. Et on joue à Saint-Etienne dans le cadre du Warm-up Hellfest le 21 mars avec Novelist et Nervosa. C'est une super opportunité pour nous. On est vraiment très contents d'honorer cette date. Donc si jamais il y en a de la région qui veulent aller nous voir en live, n'hésitez pas.
Vous voulez rajouter quelque chose? C'est bon, on a fait le tour de la communication. On se quitte sur le dernier morceau. Vous voulez donner une piste de lecture pour le dernier morceau qui est un peu, ouais, je disais, un peu une sorte d'ovni un peu dans le disque.
Ouais, bah ce morceau, j'ai fait ce morceau quand j'avais 16 ans, donc il date vraiment beaucoup. Et je me suis dit, bah pourquoi pas en faire un morceau. Donc j'ai soumis l'idée à Nico, on a arrangé tout ça. Donc moi j'ai fait la guitare principalement, hein. Et toi t'as fait le chant.
Voilà.
Bah Lana, tu chantes beaucoup, et en fait c'est le seul morceau acoustique de l'album et seul morceau où il n'y a pas de chant guttural, donc c'est uniquement Nico et Lana qu'on va entendre, et donc c'est un peu un ovni, enfin c'est notre balade en fait, et ouais. Moi je trouve qu'elle clôture très bien l'album, elle reste dans l'univers un peu post-apo, etc.
Oui, les paroles c'est totalement ça, ouais.
Voilà, donc c'était musique, etc. avec Ash Winter. Merci beaucoup à Ash Winter d'être venu jusqu'à Radio Canu un dimanche matin. Et à très bientôt.
Merci.
Salut.
Au revoir.
Salut.
Et on se quitte sur donc un dernier morceau.
L'homme blessé.
Voilà, c'était Musique, etc. Première partie avec Ash Winter. Pour le podcast, rendez-vous sur les blogs de Radio Canu à la rubrique Musique, etc. Il y a une page Facebook également d'émission qui s'intitule Radio Canu Musique, etc. Et depuis quelque temps, les émissions sont également disponibles sur les audioblogs d'Arte Radio à Musique, etc. Et pour l'orthographe, Musique, etc., ça s'orthographie MUSIK-ETC-6. Je vous envoie un bout de générique, un bout de l'identifiant de l'émission, et dans un instant, on se retrouve avec le groupe Digitipus in Nasu, qui va nous. Et on va écouter leur album Surat Safran. C'est dans un instant, dans Musique, etc., juste après un petit bout de générique.